Anderson, Le Cygne Sauvage, deuxième face, fin d'histoire. Celle sera suivie de l'histoire du torché d'Anderson aussi. Soudain, un corps de chasse retentit dans la montagne. Lise fut saisie de crainte car le feu se rapprochait. Bientôt, elle entendit des chiens aboyer et se réfugia terrifiée dans la caverne. Elle fit un paquet de la tulipe qu'elle avait tissée. Elle s'assit dessus. Tout à coup, un gros chien arriva en courant, suivi par la meute entière. Peu après, tous les chasseurs étaient réunis à l'entrée de la caverne. C'était la chasse du roi du pays. Le roi marcha droit vers lui. Jamais il n'avait vu une jeune fille plus jolie. Comment es-tu venu ici, merveilleux enfant, madame? Lui secoua la tête. Elle ne pouvait pas parler, car il s'agissait de la délivrance et de la vie de ses frères. En même temps, elle cachait ses mains sous son tablier pour que le roi ne vît pas comme elles étaient habillées. Viens avec moi, dit le roi. Tu ne peux pas rester ici. Si tu es aussi belle que belle, je veux te vêtir de soie et de velours et te mettre une couronne d'or sur la tête. Tu demeureras dans mon château. Il l'a mis sur son cheval. Elle pleurait et joignit les mains. Mais le roi lui dit, je ne te veux pas de mal. Un jour tu me remercieras. Puis il s'élança à travers la montagne, la tenant devant lui et les chasseurs chevauchant derrière eux. Au coucher du soleil, on arriva à la ville. Le roi conduisit Lise à son château. Dans de hautes salles de marbre coulaient de magnifiques fontaines. Les murs étaient couverts de portraits. Mais elle ne faisait attention à rien. Elle pleurait et se lamentait. Indifférente, elle laissa les dames d'honneur lui mettre des vêtements royaux, orner ses cheveux de perles et mettre des gants souples à ses pauvres mains brûlées. Ainsi parée, elle était si belle que la cour s'inclina encore plus bas devant elle. Le roi la déclara sa fiancée, bien que l'archevêque secoua la tête et assura que cet enfant de la forêt devait être une sorcière où les yeux brûlaient et affolaient le cœur du roi. Le roi ne voulut rien entendre. Il y eut un grand banquet, les plus charmantes jeunes filles dansèrent les plus jolies danses du pays. Les éclairs sourires me parut sur les lèvres de Lise. Le roi ouvrit alors la porte d'une petite chambre à coucher qu'il lui avait réservée. Elle était tendue de tapisseries vertes d'un grand prix, et toute pareille à la grotte où l'on avait trouvé Lise. Sur le parquet était le papier vertu dont elle se servait pour tisser, et au plafond était suspendue la tulipe déjà prête. Un des chasseurs avait rapporté tout cela par curiosité. Tu peux rêver que tu es ici dans ton ancienne demeure, dit le roi. Voici le travail dont tu t'occupais là-bas. Au milieu de ton luxe actuel, cela te réjouira de te reporter à ce temps-là par la pensée. Quand Lise revit tout ce qui lui tenait tellement de cœur, un sourire éclaira son visage et le sang coléra de nouveau ses joues. Elle pensa au salut de ses frères et baisa la main du roi, qui la pressa sur son cœur et qui sonnait les cloches à toute volée pour annoncer son mariage. La belle jeune fille Liette était maintenant la reine du pays. L'archevêque lui rirait bien à l'oreille du roi de mauvais conseils, mais il ne pénétrait pas jusqu'à son cœur et la cérémonie eut lieu. L'archevêque lui plaçait lui-même la couronne sur la tête de Lise et méchamment, il l'enfonça tellement sur le front qu'il lui fit mal. Mais elle était insensible aux douleurs de son cœur, parce qu'elle éprouvait dans son cœur une peine autrement vive. C'était le souci de délivrer ses frères. Elle continua à rester muette, car un seul mot d'elle mérite plutôt la vie. Ses yeux et ses sourires seuls exprimaient une profonde affection pour le bon roi qui faisait tout pour la consoler. De jour en jour, elle l'aimait davantage et de tout son cœur, elle désirait pouvoir lui confier son chagrin. Mais elle ne le en achevant les plumes l'une après l'autre. Quand elle fut à la septième, le chanvre lui manqua. Les vertus qu'elle devait employer poussaient, elle le savait, seulement dans les cimetières, et il était indispensable qu'elle les cueillit elle-même. Comment y parvenir? Ah, qu'est-ce que le souffrant de mon nom est près de l'angoisse qui m'étreint le cœur, pensait-elle. Je veux tout risquer, Dieu m'assistera. Tremblant comme si elle faisait une mauvaise action, elle descendit dans le jardin, une nuit où il y avait de la lune, et par les longues années des rues désertes, elle se rendit au cimetière. Là, elle vit sur la plus large des tombes, de vieilles et affreuses sorcières assises en cercle. Les sorcières jetèrent leurs vêtements comme si elles voulaient se baigner, et avec leurs longues lames molles, se mirent à creuser des tombes fraîches. Lise qui passait près d'elle, et elles la regardèrent durement. Mais Lise disait en elle-même une prière. Elle ramassa des orties et revint au château. Un seul homme l'avait vu. C'était l'archevêque. Il était éveillé quand tous les autres dormaient. Il crut qu'il avait eu raison au soutenant des rois que tout n'était pas naturel dans les allures de la reine. C'était bien une sorcière, pensait-il, qui avait ensorcelé son souverain et tout le peuple avec lui. Le lendemain, il raconta au roi ce qui s'était passé dans la nuit. Et pendant qu'il parlait, les statues secouaient la tête comme pour dire « Lise est innocente ». L'archevêque interpréta ceci d'une autre façon et dit qu'elles accusaient la reine. Alors, deux grosses larmes coulèrent sur les joues du roi et il revint au palais avec un doute affreux sur le cœur. La nuit suivante, il fit semblant de dormir et vit Lise quitter le château. Elle recommençait chaque nuit, il la suivit chaque fois et la vit revenir à sa chambre. Il devint de jour en jour plus sombre. Lise ne pouvait pas comprendre pourquoi. Ce fut un chagrin de plus pour elle, mais son plus grand souci était toujours de délivrer ses frères. Ses larmes coulaient sur les velours et la pourpre royale comme des diamants étincelants. Et pourtant, tous ceux qui la voyaient si belle l'enviaient. Cependant, son travail approchait de la fin. Elle n'avait plus qu'une tunique à faire, mais il ne lui restait plus d'orties. Il lui fallait sortir encore une fois pour accueillir quelques poignées. La pensée de la promenade la nuit et des affreuses sorcières l'effrayait, mais sa volonté était aussi inébranlable que sa confiance en Dieu. Elle partit. Le roi et l'archevêque la suivirent. Ils la virent entrer par la porte du cimetière et disparaître. En se rapprochant, ils aperçurent les sorcières sur un tombeau. Le roi s'enfuit, il s'imagina avoir vu parmi les sorcières la reine dont il avait mis le soir même la tête sur sa poitrine. Le peuple sera juge, dit-il. Et le peuple condamna la reine à périr sur le bûcher comme sorcière. Des splendides salles, elle fut conduite dans un sombre cachot où le vent sifflait à travers les barreaux de la fenêtre. Au lieu de venir de soie, elle lui donna le paquet d'orties qu'elle avait tenu pour reposer sa tête. Les rudes tuniques cuisantes devaient lui servir de lit, mais rien ne pouvait lui faire plus de plaisir. Elle reprit aussitôt son travail en remerciant Dieu. Dans la rue, les gamins chantaient sur elle des chansons d'envergure. Personne ne lui adressait un mot de consolation. Vers le soir, des ailes de cygne vinrent battre à sa fenêtre. C'était son plus jeune frère qui avait réussi à la retrouver. Elle fut transportée de joie bien qu'elle sût que la nuit suivante fut la dernière pour elle. Car ce travail était presque achevé et ses frères n'étaient pas loin. L'archevêque vint pour l'assister à ses derniers moments. Le roi le lui avait ordonné. Lise secoua la tête et lui fit signe de la laisser arrêter. Elle devait finir son ouvrage cette nuit-là, sans quoi tout lui était inutile. suivi Raphaël en trottant sur le parquet. Et elle demanda le chambre pour lui venir en aide. Un ratignol se percha sur sa fenêtre et chanta toute la nuit pour soutenir son courage. Un peu avant le lever du soleil, les huit frères se présentèrent au château et demandèrent à être menés devant le roi. On leur répondit que c'était impossible, qu'il était encore nuit et ils ne pouvaient les aider. Les frères prièrent et menacèrent tant que la garde arriva. Le roi vint lui-même et demanda ce que signifiait tout ce bruit. Au même instant, le soleil parut. Il n'y avait plus là de frères, on vit seulement un signe sauvage avec des couronnes d'or sur la tête qui venait au-dessus du château. Le peuple sortait par la grande porte de la ville pour aller voir brûler la sorcière. Elle avait un vêtue d'une toile grossière. Ses beaux cheveux longs pendaient autour de son beau visage. Ses yeux avaient la pâleur de la mort. Ses lèvres semblaient prier pendant que ses doigts continuaient à tisser. Même sur le chemin du bûcher, elle n'interrompait pas son travail, car il y avait déjà 10 cuves prêtes, et elle achevait la 11e avec une hâte brune. Voyez la sorcière, voyez comme elle marmotte entre ses dents. Elle n'a même pas un livre de psaume à la main. Il peut déchirer un livre pièce, c'est horrible ouvrage magique qu'elle emporte avec elle. Tous se poussaient et allaient arracher les tuniques quand les hauts signes sauvages arrivèrent en volant. Ils se posèrent autour d'elle sur la charrette et battirent l'air de leurs grandes ailes. La foule était mieux recula. C'est un signe du ciel. Elle est certainement innocente. Murmurèrent plusieurs. Déjà, le bourreau saisissait Lise par la main. Alors elle jeta en toute hâte une hausse tunique sur les cygnes qui se transformèrent en jeunes princes. Seul le plus jeune avait une aile de cygne à la place d'un bras, car à l'une des tuniques qui n'était pas finie, il manquait encore une manche. Maintenant je puis parler, s'écria Lise. Je suis innocente. Le peuple, voyant ce qui était arrivé, s'agenouilla devant elle comme devant une sainte. Mais elle tomba évanouie dans les bras de ses frères, tellement le travail, l'angoisse et la douleur l'avaient épuisée. Oui, elle est innocente, dit l'aîné des frères. Et il raconta tout ce qui s'était passé. Pendant qu'il parlait, un parfum se répandit comme s'il en eût apporté des millions de roses. C'était le morceau de bois du bûcher qui avait pris racine et poussé des feuilles et des fleurs. Il y avait là maintenant tout un buisson de roses rouges, et dessus était une fleur blanche qui brillait comme une étoile. Le roi l'accueillit, la mit sur la poitrine de Lise qui s'éveilla, le cœur plein de joie et de bonheur. Toutes les cloches se mirent à carillonner d'elles-mêmes, les oiseaux accoururent par bandes, et l'on fit au château une fête comme jamais on en avait vu. Voici maintenant l'histoire du porcher. Il y avait une fois un prince qui était très pauvre. Il avait un royaume tout petit. Cependant, si petit qu'il fût, ce royaume était tout de même assez grand pour qu'il pût trouver à se marier, et notre prince voulait justement prendre femme. Il aurait bien voulu dire à la fille de l'empereur, veux-tu l'épouser, et il le pouvait, car son nom était célèbre à bien des lieux à la ronde, et sans princesse aurait répondu lui à sa proposition. Mais la fille de l'empereur, écoutez ce qu'il advint. Sur le tombeau du père de notre prince poussait un rosier, et le joli rosier. Il ne fleurissait que tous les 5 ans, et encore ne donnait-il qu'une rose. Mais c'était une rose qui avait un parfum si doux qu'à la sentir, on oubliait soucis et peines. Il avait aussi la ratignolle qui chantait admirablement. Toutes les plus belles mélodies semblaient sortir de son petit rosier. La fille de l'enfer, qui en avait entendu parler, voulut avoir la rose et la ratignolle. Le prince ne voulut tout deux dans les belles caisses d'argent qu'il envoya à la fille de l'empereur. L'empereur le fit porter devant lui, dans la grande salle où la quand elle se voit ce caisse, elle battit des mains de ravissement. Si seulement c'était un petit chat, s'écria-t-elle. Mais ce fut le regret que le attira le premier. Oh, qu'il est gentil, fit la dame d'honneur. Il est plus que gentil, dit l'empereur. Il est admirablement fait. Mais la princesse respira le parfum et fut sur le point de pleurer. Oh papa, s'écria-t-elle, il n'est pas artificiel, ce n'est qu'un vrai rosier. Oh, si, dirent les courtisans, un vrai rosier. Voyez-vous ce qu'il y a dans l'autre caisse avant de nous emporter, reprit l'empereur, et retira le rossignol. Il se mit à chanter si délicieusement qu'on ne pouvait vraiment pas en dire du mal.
Charmant, merveilleux,
dit le randonneur.
Cet oiseau me rappelle tout à fait la tabatière à musique de feu l'impératrice,
dit un vieux courtisan.
C'est le même ton, le même accent. Il lui dit
qui se mit à pleurer comme un petit enfant.
Je ne peux pas croire.
Et que soit un vrai rossignol, dit la princesse.
Mais si, vraiment,
répondit ce qu'il avait apporté.
Or, elle a tout son bateau, dit-elle.
Et elle ne voulut permettre à aucun prix que le prince entra. Mais lui ne se laissa pas décourager. Il se peignit la figure avec du bras et du noir, enfonça son bonnet sur ses yeux et se présenta en blattant.
Bonjour, sire, dit-il, ne pourrait-on pas me donner du service au château?
J'ai beaucoup trop de même de place, dit l'empereur.
Mais j'ai besoin d'un gardien pour le corps, si cela convient.
Le prince accepta de devenir porcher. On lui donna une mauvaise chambre près de l'état de la terre. Il se mit au travail toute la journée, et dès le premier soir, il avait construit une jolie petite marmite, toute garnie de clochettes, qui, sitôt qu'on la mettait sur le feu, jouait la vieille mélodie allemande « Ach, den Rieder Augustine, alles ist weg, weg, weg !»
Mais le plus merveilleux était que lorsqu'on mettait le doigt dans la vapeur de la marmite, on sentait aussitôt les plats qui se préparaient dans toutes les cheminées de la ville.
C'était bien autre chose qu'une rose, cela. La princesse passa en se promenant avec toutes les dames de l'air. Elle entendit la mélodie, s'arrêta et fut ravie, car elle aussi savait jouer Ach du lieber Augustin. C'était, il faut dire, tout ce qu'elle savait jouer au piano, qu'elle le jouait avec un seul doigt.
C'est l'air que je sais, s'écria-t-elle. Ce perçu n'est pas un imbécile. Qu'on a lui demandé combien coûte l'instrument.
Une des demoiselles entra dans les tables, mais sans avoir pris de sabots.
Que demandes-tu pour ta marmite, dit-elle.
Je veux avoir 10 baisers de la princesse.
Dieu du ciel, s'écria la dame d'honneur.
Pas moins, dit le porcher.
Que dit-il, demanda la princesse.
Je n'ose le répéter, dit la dame d'honneur.
C'est affreux.
Dit le bois tout bas, dit la princesse. La dame d'honneur s'exécuta.
Le mal au cul,
s'écria la princesse, et elle s'éloigna. Elle n'avait pas fait 10 pas que les clochettes se mirent à jouer délicieusement.
Ah, des libérés de style, avec une bête, bête, bête. Allez-vous demander s'il veut avoir 10 baisers de mesdames d'honneur.
Non, merci. Dit Perchet,
buvez de la princesse ou gardez ma marmite.
Qu'en entêtez, dit la princesse.
Enfin, vous vous placerez autour de moi que personne ne me voit.
Les dames de mer fermèrent le cercle et écartèrent leurs joues. Le Perchet eut ses 10 baisers et la princesse la marmite. Ce fut un ravissement général.
On fit jouer la marmite tous les soirs.
Il n'y eut pas une cheminée de la ville dont on ne pénétra le secret. Et tout ce qu'avait mangé le chambellan comme le cardonnier.
Les dames d'honneur sautaient de joie et battaient des mains. parlé qui leur va la supergraver ou même la pierre à la vie directe.
C'est merveilleux. Certainement, dit le surintendant de la cour. Comment? N'allez pas bavarder, dit la princesse, car je suis la fille de l'empereur. Dieu me garde, dirent-elles tout à la fois. Le percher, c'est-à-dire le prince que tout le monde connaît pour un percher, ne laissa pas s'écouler la journée sans inventer quelque chose. Il tailla une jolie crécelle. Quand on la faisait tourner, elle jouait vase, galop, polka, toutes les danses du monde. Voilà qui est admirable, dit la princesse en passant par là. Je n'ai jamais rien entendu de si ravissant. Pourquoi lui demander ce petit instrument? Mais cette fois, je l'embrasse à aucun prix. Il réclame maintenant ce baiser, dit la dame de mer qui était entrée. Il est fou, dit la princesse, et elle partit. Mais elle n'avait pas fait du pas qu'elle s'arrêta. Mais une fois pour Ezéla, fit-elle, je suis fou de l'empereur. Dites-lui que je lui donnerai 10 baisers comme hier. Il recevra les autres de mes dames de l'air. Embrasser ce lourdeau, dirent les dames. Eh bien, dit la princesse, je le fais bien, moi. Vous êtes mes sujets, après tout. Je vous nourris et je vous paye. La dame de l'air retourna vers le porcher. Sans baiser de la princesse ou celui-ci, ou que chacun garde son bien. Foutez-vous devant moi, reprit la princesse. Les dames de l'air fermèrent le cercle et le percher commença d'embrasser.
Mais que se passe-t-il donc près de l'étable à peur, dit l'empereur qui était à son balcon.
Il se frotte à les yeux et lui se lumière.
Ah! Ce sont les dames de l'air qui s'amusent, il faut que j'aille voir cela.
Il mit ses pantoufles et descendit rapidement. Une fois dans la cour, il s'avança tout doucement. C'était du reste peine inutile, car les dames d'honneur étaient fort occupées à compter les baisers pour que le gaillard ne prît pas plus que son dû. Elles ne remarquèrent pas l'empereur. Il se dressa sur le talon.
Qu'est-ce que cela ? S'écria-t-il.
Et prenant sa pantoufle, il en donna des coups aux dames d'honneur. Le porcher en était au 86e baiser.
S'écria l'empereur en colère.
Le porcher et la princesse furent chassés du royaume. Ils devaient à terre. La princesse se mit à pleurer.
Malheureuse, s'écria-t-elle. Comment j'ai épousé le gentil prince?
Le porcher alla se cacher derrière un arbre, essuya le noir et le brun de son visage, ôta ses vilains habits, puis revint vers la princesse dans son costume de prince.
Je suis venu pour t'exprimer mon mépris, dit-il.
Tu n'as pas voulu d'un prince honnête, tu n'as compris ni la rose ni le rossignol, mais pour une bagatelle, tu embrasses un porcher. Grand bien te fasse. Il repartit aussitôt pour son royaume et ferma sa porte à double tour. Ce fut bien heureux que la princesse vint chanter devant la porte